aux infos d'ici.
Il est 17h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Michel Tanganyika. Michel, on revient sur le budget fédéral qui laisse tomber les aînés selon plusieurs associations.
Tout à fait. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées constate l'absence de mesures pour venir en aide aux aînés dans le budget du gouvernement Cornet. La même critique a été faite par le Bloc québécois qui refuse d'approuver un tel budget. La présidente de l'Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Micheline Germain, mentionne que le plus surprenant est l'absence de mesures visant l'augmentation du revenu des aînés. Elle souhaiterait d'abord que la pension de vieillesse de tous les aînés soit bonifiée de 10%, comme c'est le cas pour les aînés de 75 ans et plus.
Ben, on est déçus parce que on aurait souhaité qu'il y ait des mesures pour bonifier la sécurité de la vieillesse, la pension des personnes aînées, bonifier le supplément de revenu garanti, parce qu'on sait que ça bouge pas beaucoup, les revenus des aînés, alors que le coût de la vie, lui, augmente très rapidement. Le 10% qui est accordé aux gens de 75 ans et plus, ben, des aînés, nous, on considère qu'il n'y en a pas deux catégories. Il y a des aînés, et des aînés, c'est 65 ans et plus.
La présidente souhaiterait qu'un volet du programme Maison Canada soit dédié aux aînés, que ce soit pour la construction d'unités dédiées aux aînés ou pour l'adaptation des logements existants à leurs besoins.
Au niveau du logement, les personnes ont une grande insécurité parce qu'ils ont peur de perdre leur logement. Ils ont peur que le coût du loyer augmente et qu'ils puissent se l'ouvrir. Puis ils n'osent pas se plaindre. Même si le logement a des failles, ils n'osent pas se plaindre parce qu'ils ont peur que le propriétaire décide de reprendre le logement, de le rénover puis de le louer plus cher. Alors, ils ne pourront plus se l'offrir. Il y avait déjà des programmes puis on voulait qu'ils accroissent le montant offert là.
Micheline Germain précise que les aînés de moins de 75 ans, même s'ils ne travaillent plus, sont encore pleinement actifs dans la société et contribuent à faire rouler l'économie en consommant ou en faisant du bénévolat.
Il y a les propriétaires de terres forestières qui revendiquent leur légitimité devant le Comité permanent des ressources naturelles.
Effectivement, le 6 novembre dernier, les propriétaires forestiers du Canada ont comparu devant le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes. Cette rencontre visait à amorcer une étude sur l'industrie forestière qui est actuellement en crise étant donné le conflit du bois d'œuvre. Les PFC représentent 480 000 propriétaires forestiers qui détiennent 10% des forêts aménagées du Canada et 20% de la production totale de bois au pays. Selon Vincent Miville, vice-président des PFC et directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, la totalité de l'écosystème d'approvisionnement est fragilisée par la conjoncture actuelle.
La chaîne d'approvisionnement, donc du propriétaire forestier, le producteur forestier, la personne qui assure le transport du bois, l'entrepreneur de récolte, les gens qui offrent des services à ces gens-là, toute cette chaîne-là tombe. Et les programmes qui sont mis de l'avant par le gouvernement fédéral en ce moment viennent vraiment à soutenir l'usine puis soutenir la diversification des marchés. Sauf que si cette usine-là tressaille, comme c'est le cas en ce moment avec la série de Domtar à Maniwaki, il y a tous les laissés pour compte au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui n'ont pas nécessairement les mêmes programmes de soutien.
La région de la vallée de la Gatineau est très impactée par ce conflit et les programmes mis en place par le gouvernement ne suffisent pas, selon M. Miville.
Quand on parle de crise forestière, ce qui se passe dans la vallée de la Gatineau, et ça illustre bien tout le malheur qui peut survenir dans les communautés rurales, évidemment dépendantes du secteur forestier quand une crise comme ça survient. C'est un peu le message qu'on tentait de passer à Ottawa, c'est de dire c'est bien qu'il y ait des programmes pour venir soutenir l'industrie forestière, les usines, etc. C'est une bonne chose en tant que telle, mais par contre, ça ne veut pas dire que toutes les usines vont être en mesure de passer à travers une crise aussi importante que ça.
La dernière entente signée avec le gouvernement date de 2006. Alors que d'autres secteurs d'activité établissent des pistes de solutions, celui du bois d'œuvre est toujours laissé pour compte, selon M. Miville.
Des connaissances par rapport à leur nombre, par rapport à ce qu'ils produisent, de valeur de production, les endroits où est-ce que les producteurs produisent du bois, alimentent l'industrie forestière, les services écologiques que ces gens-là rendent à l'ensemble des sociétés. Et du fait qu'il y a cette manque de connaissances-là, et même, je dirais, manque de volonté pour aller chercher cette connaissance-là, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place ou des programmes et autres pour venir soutenir le secteur, ben on oublie toujours les producteurs et les propriétaires forestiers.
Selon la direction générale des PFC, sans soutien et sans rachat des droits de douane, les entreprises devront fermer leurs portes.
Maintenant, Michel, il est question de cette campagne contre le cannabis au volant qui a été lancée.
Oui, la Société de l'assurance automobile du Québec a lancé une campagne contre le cannabis au volant. Cette campagne vise à sensibiliser les conducteurs à l'importance de ne pas conduire après avoir consommé du cannabis, puisque le comportement présente des risques et des conséquences, autant pour la personne que son entourage. Elle veut également faire réfléchir le public, plus spécifiquement les jeunes conducteurs, à briser certaines croyances populaire selon lesquelles le cannabis aurait moins d'effet sur la conduite que l'alcool. Or, selon la SAC, sous influence du cannabis, le temps de réaction augmente, le contrôle de la trajectoire est plus difficile et la coordination des gestes est moins bonne. Des messages contre l'alcool au volant seront également diffusés dans les prochaines semaines. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou par la drogue, représente une infraction criminelle et que les conséquences sont les mêmes peu importe la substance. Elle demeure l'une des principales causes d'accidents au Québec. Les différents éléments de la campagne peuvent être consultés sur le site web de la SAC.
Et on parle du crible qui a la cote dans la vallée de la Gatineau.
Oui, le crible est une activité très appréciée dans la vallée de la Gatineau. Maniwaki possède notamment son propre club qui s'adonne à ce jeu toutes les deux semaines. Il s'agit d'un jeu de cartes inventé au XVIIe siècle en Angleterre. Selon les explications d'un membre du club de crible de Maniwaki, Jeannot Carrière, les gens viennent de partout pour jouer et le jeu permet aussi de soutenir des causes communautaires.
On a du monde un peu partout. On a du monde de Gatineau, on a du monde de Ferme-Neuve. Le monde, il vient de partout pour jouer. Puis ça fait passer le temps aux personnes. Tu sais, on a beaucoup de personnes âgées qui jouent à ça. Fait que c'est plaisant. Surtout l'hiver, là, on fait un gros tournoi dans le temps de la PAC One. Martineau, et comment dit ça? Fait qu'on organise, on amène des dons, on va partout, puis tout le monde nous donne des dons. Le monde est très généreux.
Le club de crible de Maniwaki a même participé cette année à une compétition à Gatineau. Jeannot Carrière et deux autres membres ont raflé les trois premières places.
On est allé à une compétition à Gatineau, puis c'est des joueurs individuels qu'on jouait. Puis j'ai gagné la première place, mais on est trois qui ont gagné la première place. Puis on est cinq de Maniwaki qui ont gagné les cinq premiers prix en partant. Puis c'était bien intéressant. Le premier prix à Gatineau, c'était 865 $, mais il suffit qu'on était trois qui a fini premier. Fait qu'ils ont pris les trois premiers prix. Puis là, ben, ils ont mis ensemble puis divisé en trois. Ça fait que j'ai gagné 665 $ en tout.
Monsieur Carrière a aussi affirmé que des compétitions amicales sont organisées tous les deux samedis du mois à Maniwaki, au bar chez Martineau, de 10h à 16h. Mais pour y participer, il faudrait venir avec un partenaire, car le jeu se joue en duo. Une compétition est aussi organisée à Grand Remous et des bourses sont offertes aux cinq premiers.